Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, comment parler des Blancs ? Inconnu du grand public comme des fans de hip-hop, le rappeur Nick Conrad est devenu subitement célèbre en septembre dernier, grâce ou à cause de son clip « Pendez les Blancs ». Clip violent, mettant en scène l'exécution d'un homme et qui lui a valu d'être renvoyé en correctionnel début janvier pour provocation au crime. Une amende de 5000 euros avec sursis a été requise. Le jugement sera rendu le 19 mars. Alors, au-delà de ses conséquences judiciaires, cette affaire a alimenté le débat dans de nombreux médias autour de la question suivante. Y a-t-il un racisme anti-blanc ? Si cette question n'est pas inédite, elle n'est posée en France que depuis quelques années. Ne serait-ce que parce que jusque-là, les Blancs étaient à la fois invisibles, comme le sont souvent les majorités, et sans revendication d'appartenance communautaire. Dans un pays comme le nôtre, soucieux d'égalitarisme, l'apparition d'une telle catégorie comme grille de lecture des rapports sociaux ne pouvait aller de soi. Mais que nous enseignent l'histoire et les autres pays à ce sujet ? Comment parler des Blancs ? Eh bien, c'est la question dont nous allons discuter jusqu'à 19h en compagnie de deux invités, à commencer par vous, Nelly Irvine Painter. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes historienne, professeur d'histoire à l'université de Princeton aux États-Unis, oui. Dans l'état du New Jersey. Oui. C'est spécialiste de l'histoire du sud des États-Unis. Et vous publiez aux éditions Max Milo, Histoire des Blancs, c'est un ouvrage qui est sorti aux États-Unis il y a une petite dizaine d'années, en 2010. Voilà, et qui est traduit en France, et êtes à Paris pour en discuter. Et pour échanger justement avec vous autour de cette question des Blancs et comment en parler, Maxime Servul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, membre du CEMTI, le Centre d'études sur les médias, les technologies et l'internationalisation. Et vous avez notamment publié, c'était en 2013 aux éditions Amsterdam, Dans le blanc des yeux. Alors Nelly Irvine Painter, puisque vous êtes historienne, faisons un peu d'histoire si vous voulez bien pour commencer cette discussion. À quand remonte la première apparition des Blancs, c'est-à-dire à quand remonte le fait qu'on désigne des populations sous ce vocable de blanc?
Oui, ça a commencé au XVIIIe siècle avec la science, les sciences humaines, la taxonomie. Alors, Linnaeus a désigné des races, des populations. Sa taxonomie était le monde entier avec les hommes. Et l'utiliser European plutôt,
mais européen pour... ça voulait dire blanc.
Ce n'est pas exactement la même chose, mais blanc arrive avec Blumenbach à Göttingen, université de Göttingen, fin du XVIIIe siècle.
XVIIIe siècle, alors votre livre, il commence dès l'Antiquité. En tout cas, vous êtes allé enquêter du côté de l'Antiquité pour voir si on parle des Blancs.
Pas mal de personnes pense que c'est possible de penser, de parler des races humaines dans le sens que nous le faisons maintenant, il y a 2 millénaires. C'est pas possible.
Oui, parce que vous n'avez pas trouvé de traces justement de ce vocable dans l'Antiquité, alors que c'est vrai qu'on a tendance aussi à dire, bah voilà, peut-être que l'origine de la race blanche et de la domination des Blancs,
enfin,
elle viendrait de là.
Il y avait des personnes de peau claire. Facile, c'est facile à voir, mais ça ne voulait pas dire la même chose. C'était pas la race dans le sens scientifique.
Est-ce que
il n'y avait pas de science.
Oui, il n'y avait pas de science qui classifiait.
Il n'y a pas de science. Ouais. Science est inventée au XVIIIe siècle.
Est-ce que les Noirs apparaissent au même moment, Nelly Irvine Painter, c'est-à-dire en même temps que les Blancs? Ou bien est-ce qu'on croise des Noirs dans l'Antiquité?
Enfin, les humains ont commencé en Afrique. Alors, peut-être avec les peaux noires.
Si je vous pose la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on les désigne comme ça aussi? C'est-à-dire que
c'est africains. On disait le monde, les hommes sont en Europe, en Afrique et en Asie. Voilà.
Si je pose cette question, Maxime Servulle, c'est que j'ai l'impression que, en France en tout cas, mais on verra ce qu'en pense Nelly Irvin Painter, mais on a tendance à, quand on parle de blanc, en tout cas, c'est forcément en opposition avec ceux qui ne le sont pas, qui seraient les noirs. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord renverser un tout petit peu le titre de l'émission, et non pas comment parler des blancs, mais pourquoi parler des blancs. C'est-à-dire quel est l'intérêt qu'ont pu avoir un certain nombre de chercheurs, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne, à partir des années 80, à problématiser ce qu'on appelle la blanchité. Et l'intérêt de ces travaux, c'était d'abord, disons, de compléter la connaissance qu'on pouvait avoir de l'expérience des discriminations, telles que les vivaient les minorités, en interrogeant l'envers de la discrimination, c'est-à-dire les avantages que pouvaient conférer ces discriminations à un ensemble d'autres groupes sociaux, à savoir les individus qui étaient identifiés socialement comme blancs. Donc c'est une manière de renverser le regard, de renverser la perspective sur le racisme pour interroger la manière dont se constitue le groupe majoritaire. Et cette constitution, évidemment, elle est mouvante, dynamique. C'est ce que montrent très bien les travaux de Nelly Irvin Painter et puis de tout un ensemble d'autres historiens. Je pense par exemple à David Rodiger, qui montre combien la catégorie blanc, elle a été historiquement mouvante. Elle a inclus ou exclu des populations.
Ça change.
Pour quelle raison vous avez eu envie d'écrire cette histoire des Blancs, Nelly Irvin Painter?
J'avais une question. C'était pendant la guerre de Russie contre les Tchétchènes, les Caucasus.
Les Caucasiens.
Les Caucasiens, oui. Et j'étais à Princeton, je lisais le New York Times, j'ai vu une photo de Grozny, capitale de Tchétchénie, qui était tout à fait détruit. Grozny, c'était comme Berlin en 45. Mais je me suis demandé, mais pourquoi les Tchétchènes, les Américains blancs, on les appelle Tchétchènes, c'est-à-dire Caucasians. Mais les Caucases sont ici, aux alentours d'Europe et Asie, mais il n'y a pas d'Américains blancs là-bas. C'était la question. Alors, j'ai commencé à chercher. That took me to Germany.
Ça vous a
amené
en Allemagne?
En Allemagne. À Göttingen. Alors, j'ai trouvé la réponse avec Blumenbach, père de anthropologie physique. Et puis, il avait des crânes. Et la plus belle était de George, l'allergie au Caucase. Et c'était la crâne d'une jeune fille qui, I can't say it on the radio.
Si vous pouvez le dire à la radio, vous pouvez tout dire.
No, she was fucked to death.
She was fucked to death.
Oh oui, comment ça s'est dit?
Je suis pas sûr d'être sûr justement de la traduction. Bon, en tout cas,
elle est morte de.
Elle a été violée, peut-être.
À la mort. Elle est morte de diseases, venereal diseases.
D'accord, de maladies vénériennes.
Oui.
Et donc c'est ce qui vous a incité à écrire du coup cette histoire et à enquêter peut-être justement pour voir si les blancs avaient une histoire. Maxime Servulle, quand on parle des blancs, alors justement vous disiez la question posée peut-être d'abord c'est pourquoi parler des blancs. Une fois qu'on admet le fait qu'on va en parler, est-ce qu'on parle d'une catégorie homogène ou bien est-ce qu'il y a différentes façons d'être blanc? C'est-à-dire, est-ce que être blanc, par exemple, je ne sais pas, moi, quand on est, prenons un exemple patron d'une grande entreprise, c'est la même chose que quand on est, l'ouvrier de cette même entreprise?
Alors, on parle évidemment d'une catégorie hétérogène, c'est le cas de toute catégorie,
oui.
Qui est travaillée de l'extérieur, évidemment, par de la complexité, de la diversité. Mais l'intérêt de parler de blanc, c'est d'identifier une ligne de partage, ce que Webb Du Bois, par exemple, qui est considéré comme un des fondateurs de la sociologie américaine, appelait la ligne de couleur. Cette grande ligne de partage qui fracture la société autour... de cette tension centrale qui est le racisme systémique. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de parler de blanc. Et le racisme systémique, qu'est-ce que c'est ? C'est une conception du racisme qui va considérer que des discriminations telles que les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, qu'un phénomène tel que la division qu'on peut appeler raciale du travail, ou encore que les violences policières qui s'exercent contre les minorités ethno-raciales ne sont pas des bugs du système, mais qu'ils sont au contraire au cœur du fonctionnement même de la société française, en lien avec l'histoire longue de procédés de racialisation qui naissent avec l'esclavage et avec la colonisation. Oui.
La grande différence entre la France et les États-Unis, c'est... aux États-Unis, il y avait des lois qui séparaient ou bien qui exilaient les Noirs de la sphère publique, des votes, des écoles, des universités, des bibliothèques, tout ça. Il y avait tout un dispositif de discrimination qui était renforcé, légal.
Oui, en France, ça n'est pas le cas. Il y a d'ailleurs eu là aussi dernièrement des débats sur l'existence d'un racisme d'État, ce qui est quelque chose d'ailleurs qui fait beaucoup de débats en France.
C'est très différent entre les deux. Et j'ai plus d'histoire pour la France parce qu'ici, la nation, le pays, s'est commencé avec. Liberté, égalité, fraternité, mais aux États-Unis, ça s'est commencé avec la cause de the Three-Fifths Clause, qui a inséré l'esclavage dans la Constitution.
Est-ce que paradoxalement, ça veut dire, Nellie Irvin Painter, que avec ce passé d'une discrimination qui était une discrimination officielle, ça permet peut-être de parler plus facilement des Noirs et des Blancs quand on est aux États-Unis que de le faire en France. Vous êtes déjà venu en France, vous y êtes à nouveau depuis quelques heures, alors c'était pas très longtemps,
heures, oui.
Mais tout à l'heure, hors antenne, on discutait un petit peu, vous aviez l'air surprise de la façon dont les Français pensent ces questions-là.
Oui, tout à fait surprise.
Qu'est-ce qui vous surprend?
Qu'on a importé les mots et les pensées de l'Amérique. Ici, il y a un contexte historique qui est tout à fait différent. Alors, le dispositif américain, it doesn't sit right à cause des différences de contexte sociaux, des contextes historiques.
Maxime Servul.
Il y a quand même eu en France le code noir, le code de l'indigénat. Et je trouve intéressant justement qu'il y ait très souvent, très régulièrement, cette représentation de la France comme un pays dans lequel ces discriminations ne sont pas inscrites juridiquement. Et je crois que c'est justement un des éléments qui nous empêche aujourd'hui de penser le racisme, c'est cette impensée. Coloniale, cette impensée liée à l'histoire de l'esclavage. Et ça, c'est sans doute un point de différence extrêmement fort avec les États-Unis.
Ah oui.
C'est qu'il y a même très peu de politique patrimoniale s'agissant de l'esclavage. Enfin, le seul musée de l'esclavage en France est situé en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musée de l'esclavage en France.
Oui.
Donc il y a véritablement une mise à distance de cette question.
Oui. Les Américains ont commencé avant les Français de penser la race et le racisme, je crois. Et maintenant, pour le Parti démocrate, on est en avance depuis 2 années, je crois. Ça bouge très vite aux États-Unis maintenant. Et je crois qu'ici en France, ça ne change pas beaucoup.
Si, au contraire, ça bouge beaucoup.
Il
y a quand même une transformation importante, je dirais, du côté de l'antiracisme.
Oui.
On est passé du côté d'un antiracisme qu'on peut qualifier de moral et qui s'incarne dans ce que sont aujourd'hui des grandes associations reconnues, comme par exemple SOS Racisme,
oui.
qui avait pour particularité, d'une part, d'avoir une position d'énonciation très particulière.
Oui.
Le slogan de SOS Racisme, vous en rappelez, c'est « Touche pas,
touche
mon,
pas
pote.
Mon pote
oui. ».
C'est-à-dire
oui,
c'est quelqu'un
oui,
qui
oui,
n'est pas victime
oui,
du racisme,
oui, oui,
qui dit à un raciste « Ne touche
oui,
pas
oui.
aux minorités
oui. ».
Et donc ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est que c'est un antiracisme qui s'est beaucoup focalisé sur des atteintes, je dirais, explicites, des agressions, par exemple, ainsi que sur des atteintes symboliques.
Oui.
La question de,
oui.
de l'injure, par exemple, a
oui.
été centrale.
Oui.
Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération de militants et d'associations qui s'inscrivent dans un courant qu'on appelle l'antiracisme politique, qui va beaucoup plus insister sur les inégalités qui sont générés par les oui. discriminations. Et qui donc, d'une certaine manière, va reprendre à son compte les réflexions qui sont nées aux États-Unis lors du mouvement pour les droits civiques,
oui.
Avec cette idée d'un racisme systémique ou structurel. Voilà, il y a différentes manières de
oui,
l'appeler.
Oui.
Mais
maintenant, ça existe à l'échelle du gouvernement, les hommes et des femmes politiques. Il y a des Noirs ou des... Les Asiatiques, ça se dit, je ne sais pas.
Oui, ça se dit.
Les gens de couleur dans le gouvernement.
Il y a en tout cas un souci, c'est vrai, en France aujourd'hui, d'une représentation plus importante de la diversité,
y
même si
ce
n'est pas toujours...
Est-ce que ça existe maintenant?
Oui, en tout cas des personnes noires, par exemple, au gouvernement, il y en a eu, notamment, j'y pense spontanément, il y en a eu d'autres, mais par exemple, quelqu'un comme Christiane Taubira, qui a été ministre de la Justice,
oui.
Voilà, et qui a aussi beaucoup réfléchi, d'ailleurs, à ces questions. Mais je voudrais qu'on revienne au blanc, si vous voulez bien, Nelly Irvine Painter, et à votre histoire. Parce que ce qu'on apprend notamment, en lisant votre livre, c'est que c'est un groupe qui change de dimension au fil de l'histoire. Par exemple, aux États-Unis, puisque vous êtes intéressé quand même essentiellement
oui,
aux États-Unis,
oui, oui, oui.
À une période, les Irlandais, les Italiens ne sont pas forcément considérés
comme blancs. Non, mille fois non.
Comment est-ce possible et
ça,
comment est-ce qu'ils deviennent blancs?
C'est très difficile pour les gens maintenant de comprendre. Avant les années 40, il y avait beaucoup de races blanches. Quelques-uns étaient supérieurs et quelques autres étaient inférieurs. Mais tous étaient des blancs. Et les hommes adultes peuvent voter. Ça, c'est central. Parce que le pouvoir de voter, ça change tout. Ça change tout pour avoir une présence dans la politique et aussi pour les jobs, pour le boulot. Et pour ça, pour l'argent. Alors, les Irlandais de famine, milieu du 19e siècle, qui étaient une race blanche, mais très inférieure, des Celtiques. Très inférieure, mais blanche. Même les Européens de l'Est et du Sud de l'Europe qui immigraient aux États-Unis début du XXe siècle, c'était des blancs, mais des blancs inférieurs. C'était au milieu du XXe siècle que l'idée était très répandue d'une blanchitude très large. Et tous ces gens étaient dedans. Et les gens qui étaient dehors, c'était les mongoloïdes et les négroïdes.
Mais mongoloïdes et négroïdes,
oui. Il y avait trois grandes races, mongoloïdes, négroïdes, caucasoïdes. Et c'est de ce moment-là, qu'on a... une blanchitude.
Mais cette blanchitude qui recouvre en elle des disparités sociales très importantes, est-ce que justement ça ne remet pas en cause la pertinence de l'utilisation d'un tel terme, c'est-à-dire le terme de blanc ? C'est-à-dire est-ce que ça n'empêche pas de penser plutôt les rapports sociaux en termes de rapports de classe, Maxime Servul ?
Alors deux choses. D'abord juste sur le mot blanchitude. Moi je préfère employer le terme blanchité,
en raison
de
sinon
de
ça
l'écho
fait penser à négritude,
qui n'a rien à voir positif, valorisant. Oui. Voilà. Oui. Ensuite sur la question des rapports de classe, c'est évidemment une question importante, mais lorsque l'on parle d'inégalité fondée sur l'origine ou sur l'apparence, donc d'inégalité ethno-raciale. Il faut considérer, les variations, par exemple, entre deux populations données, toutes choses égales par ailleurs. Il est bien entendu qu'on ne va pas comparer des groupes qui sont, par ailleurs, très différents sur le plan des rapports de classe. Ce qui est indispensable, c'est de penser conjointement rapports sociaux de classe, rapports sociaux de sexe, rapports sociaux de race. Donc, d'articuler ces différentes dimensions pour donner à voir la manière dont elles participent de la segmentation du monde social, et dont elles participent, à forger des inégalités.
Oui, mais vous pouvez vous retrouver avec, dans les classes dominantes, par exemple, si on accepte cette grille de lecture, avec des personnes qui sont noires, des personnes en tout cas qui ne sont pas blanches. Donc on voit bien que ça ne permet pas non plus, cette différenciation entre blanc et non-blanc, par exemple, d'expliquer d'avoir une lecture toujours très fiable de ce que sont les rapports de force au sein d'une société.
Bah, si on renverse la question, on peut voir que la catégorie classe, elle est aussi totalement hétérogène. Bien entendu. Okay. Et une des questions qui peut émerger, une des questions qui émerge par exemple quand on voit les travaux de l'enquête Trajectoire et Origine sur la diversité des origines en France, c'est qui compose aujourd'hui la classe populaire ? Et est-ce que la classe populaire en France n'est pas profondément racialisée ? Voilà. C'est précisément un des enjeux, à mon sens, qui est extrêmement important si on veut articuler race et classe.
Alors ça, c'est intéressant effectivement d'évoquer cette question des classes populaires, Nelly Irvin Painter, parce que par rapport à la vision qu'on pouvait avoir des États-Unis jusqu'à peu, on pouvait considérer ou penser en tout cas que là aussi, c'était, on va dire, les populations non blanches qui composait l'essentiel des classes populaires. Et puis arrive Donald Trump, dont on dit qu'il a été élu grâce au vote des petits blancs, oui, des laissés pour compte, oui, de la, oui, société, oui, américaine. Oui. Est-ce que ça a remis en cause peut-être vos recherches et vos réflexions sur ce que c'est qu'être blanc?
Mais ça arrive toujours avec, après, avant Trump, ça change. La signification de blanchité a toujours changé par rapport avec les buts. Pourquoi on dit blanc, ça change toujours. Et le meaning de blanc, ça change aussi.
Mais la signification
du
fait d'être blanc.
Oui. En 2016, il y avait exactement ce que vous avez dit. Trump était pour les petits blancs. Et à l'autre côté, il y avait les noirs, les femmes, les ethnicités, tout ça, avec identité. Mais les blancs avaient classe. Et on parlait comme ça en 16 et 17. Non plus. Ça a changé. On voit, oh là, il y a des classes parmi les gens ethno-raciales. Et aussi, il y a race avec les blancs. Alors, ça, c'est un changement en deux années.
Est-ce que...
façon de parler, ouais, de penser.
Dans votre livre, évidemment, quand vous parlez parler d'histoire des blancs, c'est aussi parler de l'histoire de ceux qui ne sont pas blancs, c'est-à-dire soit qui ne se revendiquent pas comme blancs, soit qui ne sont pas considérés comme blancs. Et vous évoquez bien sûr le Black Power, le mouvement Black Power, oui, qui a été très important aux États-Unis, avec Malcolm X, qui est une des figures de la Nation of Islam. Mm-hmm. Et vous écrivez ceci, la Nation of Islam et Malcolm X considéraient les blancs sans distinction de classe, oui, de région ou de situation, de manière unitaire et comme une race diabolique, comme une seule entité monolithique. Et du coup, les blancs, je vous cite toujours, les blancs de la classe ouvrière qui s'indignaient d'être ignorés étaient tous profondément offusqués. Est-ce que vous diriez que ces mouvements Black Power, de revendication de droits de la part des Noirs américains,
et de beauté, Black is beautiful.
Est-ce que ça a contribué justement à faire naître ou en tout cas grossir une identité blanche?
Absolument, oui. Mais les ethniques, soi-disant white ethnics, je suis irlandais, je suis italien, je suis juif, je suis quelque chose d'autre, mais pas blanc. Parce que le mot blanc, dans les années 60 et 70, ça veut dire les Ku Klux Klan, les nazis. Et personne voulait être, faire partie avec ça. Mais maintenant, ça a changé beaucoup, et les blancs américains se rendent compte d'être blancs.
Est-ce qu'on observe la même chose en France, Maxime Servul, c'est-à-dire à la faveur, là aussi, peut-être, de montées de revendications identitaires, pas dans le sens très péjoratif qui peut exister, ou en tout cas qui est récupéré politiquement, mais en tout cas, est-ce que ces revendications, ça provoque aussi en miroir des revendications d'appartenance à cette catégorie des blancs en France?
Tout à fait. Tout le discours autour du racisme anti-blanc est précisément une sorte de réponse à la montée de l'antiracisme politique. Ce discours autour du racisme anti-blanc, il est précisément une manière de mettre à distance l'idée que le racisme serait structurel et revenir à une conception extrêmement étriquée du racisme. On n'a jamais vu personne en France être discriminé à l'embauche ou à l'emploi parce qu'il était perçu comme blanc. Hein? Donc c'est bien une manière justement de revenir à cette conception extrêmement limitée du racisme. Mais il y a autre chose, moi, qui m'intéresse à propos des identités blanches. Alors, pas simplement sous leur forme comme ça, je dirais, spectaculaire, hein, les identités blanches d'extrême droite, le suprématisme, etc. Moi, je m'intéresse aussi aux identités blanches, on va dire, sous leur forme plus ordinaire, et qui sont un objet sociologique tout à fait étonnant et difficile à étudier, puisque l'identité blanche sous sa forme ordinaire, elle se présente dans le contexte français comme la capacité à incarner une position neutre, une position universelle, et du coup, finalement, c'est une identité blanche qui ne dit pas son nom, mais qui se construit bien dans l'opposition systématique à des groupes ou à des individus qui sont vus comme, eux, toujours particuliers, toujours marqués.
Oui, oui, oui. Et ça, c'était le cas aux États-Unis il y a 2 ans, 3 ans, peut-être. Maintenant, dans les médias, on voit un homme blanc désigné comme homme blanc. C'est neutre, mais c'est-à-dire, il est blanc, et dans les années passées, c'était pas nécessaire. S'il est normal, il est blanc.
Et comment est-ce que vous expliquez, justement, que cette désignation-là, elle existe aujourd'hui, alors qu'elle n'existait pas il y a quelques années, Nelly Rainpenter?
C'est la politique, fédérale, mais c'est aussi... le monde de pensée, les livres comme le tien, mais pas en français, mais il y a le cultural studies, tout ça, et ça percolate dans la société des façons de penser différemment.
Est-ce que vous trouvez ça bien, c'est-à-dire cette évolution? Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'on désigne justement par un présentateur blanc comme un homme blanc?
Oui, c'est très intéressant.
Pourquoi c'est intéressant?
Ça fait plus égal. On dit, oh oui, moi, c'est une femme noire. Alors, elle, c'est une femme blanche. That's fair.
c'est plus juste.
Oui.
Il y a aussi... J'ai un autre exemple qui me vient en tête pour montrer l'intérêt justement de cette désignation. C'est le travail que fait le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec le baromètre de la diversité, qui a été mis en place depuis 2008 et qui identifie sur les écrans de télévision les locuteurs blancs et non blancs. Et ce travail est tout à fait intéressant puisque on se rend compte ainsi qu'on a une proportion extrêmement faible de locuteurs non blancs à la télévision française, autour de 19%, que la plupart de ces locuteurs non blancs y sont liés en réalité à la présence de fictions états-uniennes sur les écrans français, et que plus on a des genres télévisuels qui vont chercher l'identification avec les publics, alors le genre télévisuel par excellence qui cherche l'identification, c'est la publicité, et là, on tombe à 8% de non blancs. Donc, évidemment, marquer comme ça, pouvoir identifier le non-blanc, mais aussi le blanc, ça permet justement de se rendre compte de cette surreprésentation d'un groupe sur les écrans.
Mais est-ce que vous considérez, vous, Maxime Servulle, que ce serait intéressant d'avoir la même chose que ce que nous décrit Neil Irving Painter s'agissant des États-Unis, c'est-à-dire désigner des gens en fonction aussi de leur couleur de peau, puisque là, en l'occurrence, quand le CSA fait ce travail, c'est pas d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire c'est la couleur de peau qui permet de dire, d'ailleurs ça pose question sans doute, qui est blanc et qui n'est pas blanc. Oui, mais vu par le CSA. Ce qui veut dire qu'une autre personne pourrait considérer peut-être par exemple que moi je sais pas, moi si je suis blanc ou si je ne le suis pas.
À l'emblée, ça pourrait être frappant, mais... quand le temps passe, c'est normal.
C'est normal pour vous, Maxime Servulle, et c'est souhaitable?
La question, c'est pas de désigner ou pas désigner des individus. La question, c'est est-ce qu'on considère que le racisme est un enjeu aujourd'hui suffisamment important pour qu'on puisse, par exemple, mettre en œuvre des enquêtes statistiques d'ampleur qui visent à mesurer les inégalités raciales? C'est ça l'enjeu. En France, on a toujours tendance à identifier le risque de l'essentialisme, le risque de la catégorisation. Mais ce risque, il existe pour tout travail intellectuel.
Est-ce que, Neil Irving Painter, vous ne pensez pas que, justement, ce risque-là, il est avéré aux États-Unis, c'est-à-dire que dans un pays qui n'hésite pas à désigner les gens en fonction de leur couleur de peau, on est blanc, on est noir, on est quoi? On est latino, je ne sais pas si c'est en tout cas si c'est une catégorie équivalente. Est-ce que ça ne favorise pas justement le racisme?
Non.
Et est-ce que le modèle républicain qui est celui de la France, de l'indifférenciation, n'est pas quand même plus protecteur pour les gens?
Je ne sais pas. Mais, je vois que maintenant... le plus important est EDI en majuscule. E, égalité, D,
Dites-le en anglais, on verra si on
comprend. I can't even find it in English now. Diversity.
Diversité.
Diversité et inclusion. Inclusion?
Inclusion, intégration, peut-être.
Oui. Avec EDI, l'emphase n'est pas sur les noms blancs, bruns, noirs, mais les valeurs de la société. Égalité, diversité, inclusion.
Mais vous parlez quoi, de la France là ou des États-Unis?
Des États-Unis. Je ne connais pas la France. Hein.
Moi, ça ressemble assez à la France, Maxime Servulle.
La question, c'est pour qui le modèle républicain est-il protecteur? S'il y a un niveau important, comme on le sait, de discrimination ethno-raciale, l'enquête Trajectoire et Origine de l'INED que je citais tout à l'heure montre très bien que pour les ultramarins vivant en métropole, ainsi que pour les immigrés maghrébins, subsahariens et leurs descendants, 54% d'entre eux font face à l'hostilité raciste.
Oui, mais ça, c'est pas forcément dans le projet. Oui. C'est-à-dire, effectivement, peut-être que... Oui,
mais la question, c'est la mise en conformité.
Je suis d'accord. C'est-à-dire, effectivement, dans les faits, on peut considérer, on peut constater même, effectivement, que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, le projet, lui, qui est un projet universaliste,
C'est une très bonne idée. C'est une, ouais. Une idée très belle.
Mais bien
sûr. Est-ce que ça fonctionne?
Tout à fait. Il ne faut pas que le thème de l'indivisibilité de la République se renverse pour masquer les divisions réelles qui existent au sein de la société française. L'universalisme doit être un horizon, un projet. Il doit être en permanence reconstruit. Précisément, on doit regarder quelles sont les formes d'exclusion qu'il entretient pour le garder en mouvement.
Oui. Dans ça ne suffit pas. Les idéaux, ça ne suffit pas.
Oui, après, il faut être en mesure, justement, d'être à la hauteur de l'idéal, ce qui est forcément toujours compliqué. Ça, c'est d'ailleurs, on peut le constater dans plein de domaines. Dans votre livre, Nelly Irvin Painter, alors parmi les auteurs que vous citez, il y a notamment Max Weber.
Oui.
Et je trouvais cette citation intéressante par rapport à cette histoire des Blancs, j'y reviens, et à peut-être la nécessité qu'ont pu avoir les Blancs, qui étaient en situation de domination, justement de se distinguer des autres. Max Weber, il dit, je ne sais pas si c'était d'ailleurs par rapport à cette question-là, mais il dit « L'homme heureux se contente rarement du fait d'être heureux. Il éprouve de surcroît le besoin d'y avoir droit. Il veut être convaincu qu'il le mérite, et surtout qu'il le mérite par comparaison à d'autres.
Oui. »
En quoi ça s'applique aux Blancs, cette citation?
Ça s'applique aux Blancs riches, élites, bien sûr. Mais aussi pour les hommes, ça marche aussi.
Parce qu'il y a le besoin de justifier la position qu'on occupe.
Oui.
Et c'est ce qui a expliqué, du coup, le fait que ces classifications que vous évoquiez au début d'émission...
Non, il n'y a jamais d'explication de coup. Il y a toujours... beaucoup d'explications et changements dans le temps. Rien n'est simple.
Ah non, ça, rien n'est simple, ça c'est sûr. Cette nécessité, en tout cas, de pouvoir justifier sa position, qui passe notamment à travers en essayant de trouver des raisons qui seraient des raisons objectives et naturelles aux discriminations, Maxime Servul. Ça, c'est évidemment, ça sera... Si on devait faire l'histoire du racisme, mais finalement on n'est pas si loin que ça avec l'histoire des Blancs, évidemment c'est au cœur de cette histoire.
Bah, la question que pose le racisme structurel, c'est précisément celle du mérite. Le fait que un certain nombre d'avantages sont immérités parce qu'ils sont simplement une conséquence, un effet du racisme structurel. À ce titre, une réflexion tout à fait intéressante qu'on peut avoir sur la position qui est celle des Blancs, c'est celle qu'avait Frantz Fanon, parce qu'il y a aussi une histoire française de l'interrogation critique de la blanchité, quand dans Peau noire, masque blanc, il écrit... Le blanc est enfermé dans sa blancheur. Et il écrit cela parce que il veut souligner combien le racisme produit des effets, alors lui s'intéresse aux effets psychopathologiques, mais produit des effets non seulement sur les noirs, mais également sur les blancs. Il y a une forme d'aliénation du blanc, ce que Aimé Césaire appelait un ensauvagement, une décivilisation, qui est liée au racisme.
Le blanc est enfermé dans sa blancheur. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de cette formule, Nelly Irvin Painter?
C'était vrai, mais ça a changé maintenant aux États-Unis, je crois. On pose des questions, beaucoup de questions sur la classe, genre, région aussi, dans les groupements de race. Alors, je vais réécrire ce livre.
C'est ce que j'allais vous dire. Hein, voilà. Oui. Il faut faire une version...
Oui, je vais le faire.
Mise à jour.
Bouquin d'artiste. L'histoire des Blancs à la portée de tous, illustré par l'auteur.
Le racisme pour les nuls.
Voilà un beau projet. Merci beaucoup en tout cas Nelly Irvin Painter d'avoir été notre invitée. Donc votre histoire des Blancs est publiée aux éditions Max Milo. Merci à vous Maxime Servul. Je renvoie donc à votre ouvrage de 2013 aux éditions Amsterdam dans Le Blanc des yeux. Merci à toute l'équipe du Grain. J'ai quelques secondes pour vous annoncer une prochaine émission de l'Esprit Public qui sera en direct de l'autre Odéon, le Théâtre de l'Europe, ce dimanche 10 février à 11h. Il sera question notamment des élections européennes, de la loi anti-casseur. Émilie Aubry sera en compagnie de Christine Ockrent, Sylvie Goulard, Monique Cantos-Perber et Daniel Cohn-Bendit. C'est en public, vous pouvez réserver sur franceculture.fr ou au numéro suivant 01 44 85 40 40.